9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Christiane Taubira, invitée spéciale de C'est arrivé demain. Elle a été ministre. Elle a porté jusqu'à l'épuisement la réforme de société la plus emblématique du quinquennat Hollande, le mariage pour tous. Depuis lors, elle déteste le bruit politique et y contribue le moins possible. Mais en laissant entendre que son retrait n'est pas définitif, elle continue de susciter l'espoir ou la convoitise d'une partie de la gauche. Sa parole étant devenue rare, elle use de son verbe et de sa verve dans des livres. Le dernier, le plus personnel, est l'un des succès de la rentrée littéraire, Nuit d'épines, chez Plon. Et comme les nuits de Christiane Taubira sont gorgées de musique de chant et de jazz, elle ne devrait pas être insensible, comme vous, chers auditeurs, aux voix convoquées par le pianiste Baptiste Trottignon pour son nouvel album et à celle qui ouvre le disque pour la reprise d'une chanson qui figure d'ailleurs dans votre livre, Christiane Taubira. C'est un classique de Billie Holiday. Camélia Jordana reprend ce chant d'amour désespéré pour le jazzman Baptiste Trottignon, qui sera notre invité en fin d'émission.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Christiane Taubira.
Bonjour Patrick Cohen.
C'est une autre voix de femme qui a recouvert l'actualité de la semaine, une actrice, Adèle Haenel, actrice à succès dont la carrière n'a pas besoin de publicité et qui parle, qui crie, dit-elle, pour les autres femmes qui ont eu à subir harcèlement, attouchement ou pire, et que la justice ignore, ce sont ses mots. Est-ce que vous pensez comme elle que l'institution que vous avez dirigée doit se remettre en cause, ou est-ce que vous la trouvez injuste avec la justice?
Je ne crois pas qu'Adèle Haenel soit injuste avec la justice, parce qu'elle dit explicitement d'ailleurs qu'elle fait confiance à la justice de son pays. Elle dit simplement que sur ce contentieux particulier, les agressions sexuelles, les viols, la justice, elle s'appuie en fait sur des statistiques, et les statistiques sont impitoyables. Il y a effectivement une condamnation sur 10 et 3 poursuites sur 10 à peu près. Alors, ça ne veut pas dire que la justice ne fait pas son travail. Ça dit la difficulté de ce contentieux. Et ce qu'elle dit à Adèle Haenel, c'est qu'elle voudrait que la justice se remette en question. Alors, moi, personnellement, je pense profondément que tout acte de délinquance ou de criminalité est une rupture du contrat républicain. Et c'est la justice qui rétablit le contrat, c'est la justice qui le recoue. Et qu'une personne mise en cause doit pouvoir se défendre. Donc la justice est essentielle, elle est essentielle à la démocratie. Néanmoins, j'entends aussi, parce que les statistiques, je le répète, sont impitoyables, j'entends aussi, parce que pour avoir moi aussi rencontré des femmes qui ont fait confiance à la justice, et ce n'était pas une confiance déplacée, c'est juste que ce contentieux est compliqué, c'est juste que la présentation de preuves est délicate, c'est juste que la parole est forcément fragile, c'est juste que ça, c'est souvent une parole contre une autre parole, c'est vraiment un contentieux extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout faire reposer sur la justice, qui doit être là, qui doit pouvoir agir. Mais il y a notre responsabilité. Et ce que fait essentiellement Adèle Haenel, c'est qu'elle interpelle la société, qu'elle essaie de nous sortir, nous arracher à notre torpeur, à notre routine. Et qu'elle nous dit, ça n'est pas juste ni une affaire de vengeance, parce qu'elle n'a pas l'esprit de vengeance, même si c'est terrible pour la personne mise en cause. C'est vraiment terrible. C'est quand même un jugement public.
Oui. Et c'est la justice qui peut faire le tri entre les... Mais les crimes impunis et les dénonciations
absolument,
calomnieuses.
Qui peuvent éventuellement être calomnieuses. Mais bon, d'abord, le procureur s'est saisi. Parce que
c'est une bonne chose.
Mais absolument, et c'est la responsabilité du ministère public, c'est-à-dire du parquet, lorsqu'il a connaissance, parce que l'affaire est publique, d'une présomption au moins d'acte délictueux, de saisir la justice, même s'il n'y a pas de plainte. Ensuite, parce que la personne mise en cause aussi peut saisir la justice. La personne accusée peut vouloir laver son honneur et décider qu'elle va faire la preuve de la dénonciation calomnieuse. Donc, il y a encore de la place pour la justice. Donc, la justice n'est pas évacuée, elle n'est pas expulsée de cette affaire. Mais je crois que la démarche d'Adèle Haenel est d'une autre nature. Alors, on peut évidemment regretter et déplorer, mais ce n'est pas seulement déplorer sa parole sur la justice, c'est déplorer le fait que, alors que nous avons de plus en plus conscience de ces actes, de leur réalité, de leur nature. Et c'est aussi ce qu'elle fait, en fait. Elle prend d'assaut la prison du langage pour libérer les mots proscrits. Ce sont des vers d'Abdelatif Lahabi. Hein, au pays des désemparés, on prend d'assaut la prison du langage pour libérer les mots proscrits. Et autour des rêves menacés par les fauves, on entretient le feu. Donc elle entretient le feu. Quels sont les mots proscrits? C'est tout simplement, elle dit des choses terribles. Elle dit des choses très... On sait que les agressions sexuelles, c'est monstrueux. C'est le premier mot qui nous vient. C'est monstrueux, c'est effectivement monstrueux. Et puis on a tendance à dire que ce sont des monstres qui les pratiquent, qui les commettent. Et là, elle sort les mots proscrits. C'est-à-dire, elle dit, ce sont nos amis, nos pères.
Ce sont des mots doux. Ce ne sont pas des monstres.
Oui. Voilà, ce sont des mots doux, ce sont des mots affectueux. Mais c'est ça, ces mots proscrits, voilà, ce sont des actes monstrueux, mais ce sont nos amis, nos pères. Donc voilà, donc elle fait ça et on ne peut pas lui demander de faire autre chose.
Non, mais qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui peut améliorer le fonctionnement de l'institution policière et judiciaire et la meilleure prise en compte des plaintes pour violences sexuelles?
Alors, il faut des politiques publiques. Lorsque nous étions en responsabilité, par exemple, avec Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, nous avons diffusé, moi au parquet, lui dans les commissariats, une circulaire commune, conjointe, qui demandait d'abord de ne pas recueillir les plaintes sur main courante, mais de les recueillir en tant que plaintes et de les transmettre systématiquement au parquet. Ensuite, moi-même, j'ai ajouté comme disposition que même lorsque la victime vient retirer sa plainte, de poursuivre l'instruction, ou l'enquête préliminaire ou l'instruction, parce qu'elle peut très probablement retirer sa plainte sous pression, donc de poursuivre. Donc, il y a une façon de traiter. Nous avons pris des dispositions aussi, j'avais demandé au ministre de l'Intérieur, qu'à l'accueil, systématiquement, ce soit des fonctionnaires femmes qui puissent accueillir, parce qu'on sait que c'est un vrai problème, l'accueil. J'ai mis en place, par l'École nationale de la magistrature, un module de formation des personnels de police, de gendarmerie, ainsi que des magistrats. Nous avions tout un réseau de magistrats référents et j'ai créé des bureaux d'aide aux victimes dans tous les tribunaux de grande instance.
Et
donc
de magistrates,
ce sont des politiques
vous
et
le
de magistrats.
Dans votre livre,
bien sûr,
les promotions
oui,
que vous avez inaugurées comme ministre, elles sont majoritairement féminines.
Tout à fait, 80%. Et la dernière que j'ai faite, 575 auditrices et auditeurs de justice. Donc voilà, il y a des politiques publiques. Le téléphone grand danger, j'ai vu qu'on a généralisé récemment le téléphone grand danger. Non, c'est une décision que j'ai prise fin 2013 et la généralisation a eu lieu sur l'année 2014. Mais tout ça pour dire qu'il y a des actes à poser, des décisions à prendre, des budgets à mettre en œuvre et des évaluations à faire. Des évaluations à faire. Qu'a donné la généralisation du téléphone grand danger en 5 ans, puisque ça date de janvier 2014. Donc, est-ce qu'il y a des choses à adapter? Sur les Outre-mer, par exemple, je n'ai pas pu l'étendre pour des raisons techniques d'opérateurs téléphoniques. Donc voilà, moi je crois qu'il faut faire en sorte que la justice se retrouve avec des contentieux sur lesquels on peut vraiment argumenter, on peut apporter des preuves, on peut réhabiliter éventuellement les personnes abusivement mises en cause, mais surtout, on ne peut pas laisser repartir 9 dixièmes des victimes avec le sentiment, voilà, des plaintes, voilà, même pas des victimes, des plaintes avec le sentiment que la justice n'est pas passée.
Christiane Taubira, le cinéaste Roman Polanski est visé depuis hier par d'autres accusations sur des faits s'ils ont eu lieu vieux de 44 ans. Comment réagir? Quelle attitude adopter face à ce type de mise en cause?
Mais ça nous rappelle là aussi, Adèle Haenel rappelle que Polanski est emblématique, il est emblématique parce qu'on se bouche les yeux. Nous sommes quand même encerclés par ces histoires d'agressions sexuelles. Nous sommes encerclés parce que nous savons effectivement que c'est un rapport de pouvoir, que c'est un rapport de domination. Nous savons parfaitement que ce soit l'immense pouvoir politique, l'immense pouvoir administratif, l'immense pouvoir financier ou le petit pouvoir de celui qui détient les clés pour ouvrir le local, pour que le personnel puisse entrer, et notamment, par exemple, les femmes de ménage, que ce soit ce pouvoir-là, c'est ce pouvoir qui donne une impression de supériorité et surtout d'impunité. Donc, il faut évidemment traiter ces questions-là. Alors, les artistes, j'allais presque dire qu'ils nous persécutent, nous, femmes. Les artistes nous dérangent profondément parce que nous avons de l'admiration pour les artistes. Nous les aimons et nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux. Dans son dernier livre, Toni Morrison, à son premier chapitre d'ailleurs, elle explique à quel point nous ne devons pas laisser persécuter les artistes. Nous ne devons pas laisser emprisonner des artistes, des poètes, des écrivains, des cinéastes. Parce que s'ils manquent au monde, il nous manquera l'essentiel. Et c'est une réalité. Donc, les artistes, nous les aimons et nous voulons pouvoir continuer à les aimer. Donc, ce sont les premiers qui doivent, je ne dirais pas être exemplaires, on ne demande pas à un artiste d'être un surhomme, mais ce sont les premiers qui doivent nous rassurer. Ce sont les premiers qui doivent nous dire que le monde n'est pas forcément hostile, qu'il n'est pas forcément agressif, qu'il n'est pas forcément violent. et que s'il est violent, cette violence doit être dénoncée. Donc voilà, on est très mal à l'aise parce que Polanski est un brillant cinéaste, c'est un réalisateur absolument brillant. Et voilà l'homme, en tout cas voilà ce qui apparaît de l'homme avec manifestement au moins des faits établis. Donc voilà, c'est extrêmement dérangeant. Et c'est pour ça qu'il faut avec urgence qu'on en sorte. Et la parole d'Adèle Haenel a ceci de vertueux, c'est qu'elle nous dérange tellement, elle nous dérange. Moi, elle me gêne, cette parole. Je la respecte profondément, je l'approuve, et je suis très triste d'être obligée de l'approuver, mais elle me dérange profondément, parce qu'elle dit que nos institutions, et l'institution judiciaire, qui est l'épine dorsale de la démocratie, l'institution judiciaire n'a manifestement là pas les moyens, pas le rite, pas la possibilité de faire en sorte que la confiance revienne et que les femmes soient apaisées. Donc voilà, c'est nous tous qui sommes secoués. Ça ne concerne pas les magistrates et les magistrats, ça ne concerne pas les avocates. Enfin, ça les concerne, les avocates et les avocats, mais ça ne les met pas en cause, je veux dire. Ça ne les met pas en cause, mais nous sommes concernés et nous devons vraiment en sortir.
Christiane Taubira, invitée d'Europe 1 ce matin qu'on retrouve après une pause.
Europe 1, c'est arrivé demain, continue jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
Avec Christiane Taubira, auteur de Nuit d'épine chez Plon, alors que plusieurs dirigeants de gauche vont manifester tout à l'heure à Paris pour dire stop à l'islamophobie, marche controversée sur un texte qui fait polémique. Vous auriez pu signer ce manifeste ?
Je n'ai pas signé. Bon, d'abord, j'étais à l'étranger quand ça s'est passé, mais c'est pas machin. Donc, j'ai pas vu tout de suite, j'ai pas lu. Je n'aurais pas signé parce que d'abord, j'évite de signer des pétitions. Là, je soutenais la pétition contre l'expulsion de la petite Samira, mais j'évite de signer des pétitions. Sinon, on en signe 10 par jour.
Expulsion, je le dis au passage, qui a été suspendue hier par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Et vigilance qui s'impose évidemment sur la suite. Et sinon, on en signe 10 par jour. Ensuite, une pétition qui a plus d'une ligne. C'est sujet à tracas et à polémique. Une pétition qui a plus de 3 signataires, c'est sujet aussi à difficulté.
Bon.
Donc, mais moi, c'est une règle en général. C'est une règle en général. Alors, sur le fond, la question, je crois qu'on se trompe complètement de question et on se trompe absolument de réponse.
Pourquoi ?
Le sujet. La question, c'est voilà, on nous convoque la laïcité, mais je vais y revenir tout à l'heure. Le sujet, c'est que effectivement, il y a dans la société de plus en plus ouvertement. On a connu d'autres périodes comme ça. Je me souviens après les attentats contre Charlie Hebdo,
début 2015, oui.
Voilà, les journalistes.
Recrudescence d'actes anti-musulmans. Oui.
Absolument. Donc, nous avons connu des périodes comme ça. Il faut être inflexible. Contre ces actes-là. Il faut être inflexible contre ces actes-là et ces actes qui visent de plus en plus ouvertement les musulmans et qui s'assument en tant que tels ne doivent pas être tolérés de la même façon qu'on ne doit pas tolérer les actes antisémites, on ne doit pas tolérer les actes racistes, on ne doit pas tolérer les discriminations, on ne doit pas les tolérer. Mais à mon avis, ça n'est pas la laïcité qu'on doit convoquer dans ce cas-là. Ce sont les 3 autres termes de la République qui est indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est la République indivisible, c'est-à-dire que toutes et tous, autant que nous sommes citoyennes et citoyens de cette République, et c'est ensemble que nous faisons communauté nationale. Et c'est cela qui est en cause, c'est ça qui est mis en péril, c'est ça qui est contesté. C'est-à-dire que ces citoyennes et citoyens de croyance musulmane sont contestés dans leur citoyenneté. Nous devons rappeler que la République est indivisible. Ensuite, elle est démocratique, c'est-à-dire que c'est quand même la règle. Nous vivons autour de la règle. C'est la règle qui compte. Et personne n'a le droit de transgresser la règle, en tout cas pas impunément. Et c'est ça qu'il faut rappeler, qu'il y a des lois dans ce pays, qu'il y a des lois dans cette République, et que ce n'est pas un individu, selon son humeur, selon ses aversions, selon ses sympathies, qui fait les droits des autres.
Et pas des lois liberticides dirigées contre les musulmans, comme le dit le texte du manifeste.
Non, ça c'est complètement extravagant, c'est incontestable, même si la loi de 2004 et la loi de 2010 ne sont pas les mêmes lois. Mais c'était
2004 c'est... contre le port de signes religieux voilà, à l'école, 2010 au collège et au lycée, et 2010 c'est... contre le voile
voilà,
intégral.
C'est pas la même loi, mais c'est complètement extravagant de dire que ce sont des lois liberticides. Mais il y a un sujet sur la religion musulmane dans le pays, qui est un sujet sur les religions. Pourquoi on convoque la laïcité ? On nous explique, mais la laïcité, ce n'est pas la question, l'affaire des croyants. La laïcité, c'est l'affaire du pouvoir. La loi de 1905, c'est un affrontement entre le pouvoir d'État et le pouvoir Vatican. C'est d'ailleurs, lorsque vous lisez les débats de l'époque, et en particulier le discours d'Aristide Briand à l'Assemblée nationale, il parle de Rome. Il parle de Rome, c'est-à-dire le clergé, parce qu'il se trouve qu'à cette époque, c'est la religion catholique qui était en concurrence avec le pouvoir d'État. Il parle de Rome, donc c'est pouvoir contre pouvoir. Donc c'est pour les religions organisées en clergé. Alors, je n'absous pas, je n'ignore pas la question de l'islam politique. Mais l'islam politique ne peut pas reposer sur les épaules de chaque croyant. C'est inconcevable.
Non, mais il existe.
L'histoire, mais oui, absolument. C'est pour ça que j'en parle. L'islam politique, c'est l'affaire du pouvoir d'État. Et l'islam politique, avec ses excès, son intolérance et son terrorisme, parce que c'est au nom de l'islam que des gens tuent. Et c'est pas l'islam des croyants, c'est pas l'islam des croyantes et des croyants qui au quotidien, que ce soit les femmes qui portent le voile ou qui ne le portent pas, que ce soit les hommes qui respectent 5 prières par jour, je sais pas, oui, je crois que c'est 5, ou qui, bon, voilà, le vendredi ou je sais plus, quel que soit. Voilà, moi je respecte les croyants, oui. Les dogmes, je m'autorise à les interroger et à les contester.
Oui, mais il y a la spiritualité et il y a la religion. Dans votre livre, vous racontez votre méfiance du religieux qui vous est venue dès l'enfance et votre rejet des préceptes qui pèsent sur les vies et les comportements. Vous parlez de toutes ces femmes, même éduquées, qui vivent une vie étriquée, corsetée par cette litanie d'interdits. Christiane Taubira.
C'est ce que font les dogmes et les commandements. Et effectivement, je me révolte contre ça, enfant, parce que je sens bien que c'est une question de survie. Voilà, ça n'est pas conceptuel lorsque je suis un enfant. C'est instinctif, c'est intuitif. Je sens que c'est une question de survie, que je suis exclue, que je suis appelée à subir la domination, l'oppression, l'exclusion, la marginalisation, que je n'ai pas de destinée personnelle, que je dois m'écraser. Je perçois cela, donc je me révolte, je me cabre, je me braque contre ça. Bon, mais c'est intuitif quand je suis enfant. Aujourd'hui, je suis capable de réfléchir à cela. Et je dis oui, c'est la réalité. Et la religion, mais il faut arrêter de confondre les choses. La religion, c'est un phénomène social. La religion relie, c'est-à-dire que elle dit la pratique du culte se fait ensemble. Donc la spiritualité est une affaire intime. Chaque individu a, voilà, son rapport avec la transcendance, avec ou sans Dieu, et quel que soit le nom qu'on donne à Dieu. Mais la religion, c'est un phénomène social.
Oui, mais elle peut imposer des préceptes ou des interdits qui peuvent heurter la société.
Bien sûr, elle ne fait que ça. C'est bien pour ça que la religion est en conflit avec le pouvoir politique, avec le pouvoir laïque pour le coup. Elle est en conflit et elle est constamment dans une relation dynamique qui consiste à l'amener à vouloir de plus en plus grignoter du nouveau pouvoir. C'est logique, il faut le savoir, c'est logique. Donc il ne faut pas faire retomber sur les croyantes et les croyants un équilibre que l'on doit constamment rétablir entre l'autorité politique, le pouvoir d'État, les institutions qui régissent notre société et le pouvoir politique, parce qu'il existe, même s'il est plus ou moins organisé. Dans la religion catholique, c'est un clergé et une hiérarchie très verticale. Dans la religion juive, je connais moins bien, je ne crois pas qu'il y ait de clergé, mais en tout cas, il y a une organisation institutionnelle, associative, qui fédère, plus ou moins. Dans la religion musulmane, il n'y a ni clergé, ni vraiment association fédérative, mais il y a une espèce de tentative de... Et puis, il y a une impulsion de l'État, d'ailleurs, qui est parfois surprenante, parce qu'elle est contradictoire en soi, d'organiser justement un peu l'équivalent d'un clergé. Mais forcément, la religion en tant que phénomène social, et ceux qui dirigent, qui ont le pouvoir, qui exercent de façon structurée ou pas une hiérarchie, une autorité, forcément, il y a constamment un souhait d'emprise, d'autorité justement, et donc d'influence sur les fidèles.
Christiane Taubira, vous restez avec nous. On va parler un peu de politique dans un instant.
Ah quand même.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve Patrick Cohen avec C'est arrivé demain.
Et avec Christiane Taubira qui s'est mise en retrait de la politique depuis sa démission du gouvernement de Manuel Valls en 2016 pour cause de désaccord sur le projet de déchéance de nationalité, vous en faites le récit dans votre livre « Nuit d'épines chez Plomb », ancienne ministre que la gauche, enfin qu'une partie de la gauche espère à l'approche de chaque échéance pour les européennes. Vous avez été sollicité par le PS, par les écolos, par Benoît Hamon, vous avez dit non aux trois. Qu'est-ce qu'il aurait fallu, un rassemblement, une unité, un projet commun ?
D'une part, d'abord, il aurait fallu un certain nombre de conditions. La première, c'est que j'avais déjà déclaré que je ne voulais pas de mandat électif. Voilà, j'explique, j'essaie de faire entendre que je ne veux pas de mandat électif. Ensuite, moi, je suis prête à livrer des batailles et j'en ai encore même très envie parce que je vois bien que la situation générale se dégrade, qu'il y a de plus en plus de gens en difficulté, etc. Et que la politique a de plus en plus de sens et qu'on a de plus en plus besoin de politique. Donc j'entends ça. Mais d'abord, il fallait que la gauche, dans toutes ses sensibilités, prenne conscience du naufrage qu'elle a subie en 2017, qu'elle en mesure la portée, la profondeur, la vaste... Non.
La quoi ? Hein ? La vacuité ?
J'allais dire la vastitude. Ah. Mais...
Oui.
Mais non.
Donc, on vous a entendu, la Christiane Taubira.
Mais c'est pas.
Oui.
Mais bon, fallait qu'elle en prenne conscience, qu'elle réalise à quel point elle en avait été elle-même l'artisan.
Oui.
Elle-même l'artisan, qu'elle s'est effondrée parce que tout était déjà vermoulu. Et qu'elle s'interroge sur sa fidélité à elle-même, sur les valeurs, sur ce qu'elle propose, sur pourquoi la désaffection de l'électorat, pourquoi on ne croit pas les gens qui en ont tant besoin, des politiques, des idéaux de gauche, de politiques de justice sociale, pourquoi des personnes qui en ont tant besoin ne font plus confiance à la gauche. Donc il fallait ça, c'est un préalable minimum,
oui.
Y compris pour l'avenir, oui. Immédiat et à terme.
Les électeurs de gauche qui vous entendent doivent se dire on n'est pas sorti de l'auberge. Hein.
On n'en est pas encore sorti, mais il faut pousser les responsables politiques à en sortir.
Oui.
Parce que... on ne fera rien, moi je crois que quel que soit le génie qu'on pourrait trouver, femme ou homme, et qui serait prêt à jouer voilà, suivez mon panache blanc, ça n'est pas la solution, ça n'est pas la réponse.
Oui, mais votre rêve pour 2022 d'une gauche unie sur un projet commun derrière une personnalité de stature présidentielle, c'est une utopie à l'heure où nous parlons.
Ça n'est pas une utopie, c'est juste une nécessité, c'est juste indispensable. C'est juste indispensable. Et les leaders de gauche, parce que nous avons des leaders de gauche, hein, et les sensibilités sont là, elles sont identifiables, elles n'ont guère de troupes, elles n'ont pas beaucoup d'idées, elles n'ont pas beaucoup d'énergie et de dynamisme.
Elles n'ont pas beaucoup envie de se retrouver, de se rassembler
voilà,
non plus.
Mais elles portent une lourde responsabilité aujourd'hui. Et ça dépasse les individus et les personnes. Sauf que si ces personnes ne dépassent pas leur blocage individuel, leurs ambitions personnelles, leurs hostilités, leurs aversions individuelles, leurs litiges, leurs contentieux, leurs machins, si elles ne le dépassent pas, elles vont porter une responsabilité personnelle. Donc voilà, c'est ça. Alors c'est très dur ce que je dis. Et du coup, ça me... voilà, au moins pour la journée, ils ne vont pas m'aimer. Donc ça veut dire que du coup, ils vont cesser de rêver que je vienne porter quelque étendard que ce soit. Et c'est tant mieux, ça va apaiser les choses et ça va permettre qu'on se pose.
Oui, mais vous leur dites ça, ce que quand
la municipale, là, ça va encore élargir la fracture,
oui.
Les fractures. Donc ça va augmenter le morcellement et la fragmentation de la gauche. Et ça va accroître le désespoir des gens. Alors que il y a urgence parce que à l'échelle de la société française, il y a des tas de choses à réparer, à combler. À l'échelle européenne, il y a des urgences, mais des urgences vitales, essentielles, existentielles. À l'échelle du monde, il y a des urgences. Et il y a des choses que, quelles que soient les belles et fortes politiques qu'on prend au niveau national, si elles n'ont pas d'influence sur le reste du monde va continuer à nous écraser d'un certain nombre de choses, de méfaits, etc. Parce qu'on voit bien l'état du monde. Hein. Donc voilà,
la
gauche a un devoir.
Il y a la place pour un chemin de gauche qui pourrait fédérer les Français, en tout cas des idéaux de gauche qui sont en déshérence aujourd'hui et qui devraient... revenir dans le débat public en vue de la présidentielle.
Il y a de la place parce que d'abord nous sommes dans une démocratie. La démocratie, c'est un système politique, un mode de vie qui nous permet d'avoir des sensibilités, des ambitions différentes, d'avoir des confrontations d'idées, etc. Donc on ne peut pas imaginer une société, mais c'est terriblement mortifère, une société où il n'y a pas ni droite ni gauche. C'est terriblement mortifère. Une société où on n'a pas d'opinion, où on n'a pas de vision, où on n'a pas de contradiction, où on ne discute pas, où on ne se dispute pas. Mais c'est terriblement, on n'a qu'à se coucher, mourir à ce moment-là. Donc voilà, ça n'a vraiment pas de sens. Et c'est très dangereux pour la démocratie. Donc il y a de la place pour la gauche, ne serait-ce que parce que nous tenons à la démocratie. Ensuite, il y a de la place pour la gauche parce qu'il y a dans les idéaux de gauche, qui sont plutôt mal portés pour l'instant parce qu'ils ne sont pas rendus intelligibles, dans ces idéaux de gauche, il y a des réponses aux nouvelles situations de précarité, aux nouvelles situations de vulnérabilité, aux nouveaux besoins de solidarité, aux nouveaux besoins d'espace, de créativité. Il y a, des réponses pour ça. Donc oui, il y a de la place pour la gauche, il y a surtout besoin de gauche, il y a surtout urgence de gauche, et il y a responsabilité d'une gauche qui est d'ailleurs pratiquement exclusivement masculine, et ça c'est peut-être aussi un problème, il y a l'urgence de construire des réponses.
Et vous avez très envie de livrer cette bataille, c'est ce que
moi,
vous avez
dit. Moi j'aime la politique,
tout à l'heure.
Et ça s'entend je crois,
bon,
mais
donc
j'aime la politique avec les gens.
Le magazine GQ, vous avez consacré l'an dernier Homme politique de la décennie, oui, homme politique, c'était le titre. Hein. Donc pour la décennie en
plus,
cours...
ils ont mis un peu de temps avant de passer à la personne politique.
Pour la décennie en cours, Christiane Taubira, vous êtes prête à remettre votre titre en jeu?
Ah ben moi, je remets en jeu sans difficulté, je n'ai aucune vanité. Mais j'avais été très à la fois amusée et honorée quand même hein, de ce titre, parce que bon, là, je crois qu'on peut faire de la politique différemment, et c'est bien que de dire aux gens qu'on peut faire de la politique en s'obstinant sur des idées, en s'obstinant sur des valeurs, en s'obstinant sur des principes. On peut faire de la politique comme ça. Et on arrive à agir en s'obstinant sur les idées, sur les valeurs et les principes. On arrive quand même à agir.
Christiane Taubira, j'ai encore quelques questions à vous poser sur ce qui clôt votre livre, L'urgence climatique. Ce sera après une nouvelle pause.
Europe 1, de 9h à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Demain, on en parle maintenant. Christiane Taubira, vous avez peut-être croisé sur une affiche le nouveau slogan d'Europe 1. Écoutez le monde changer à vos yeux et vos oreilles. Il est en train de changer comment ce monde, Christiane Taubira?
D'abord, il change très vite, mais il a changé de façon substantielle depuis plusieurs décennies maintenant. Mais il change très vite sous nos yeux. D'abord parce qu'on a parlé du village global il y a une vingtaine d'années déjà, et nous sommes d'une certaine façon dans un village global. Sauf que ce village est de plus en plus inégalitaire, ce village est de plus en plus violent, ce village est de plus en plus arrogant aussi. Pour ceux qui ont le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire indifférent aux petites gens, indifférent aux situations quotidiennes, indifférent aux difficultés de fin de mois des uns et des autres. Et extrêmement confortable avec la concentration des richesses, avec on spécule sur les denrées alimentaires, on fait des hedge funds. C'est-à-dire qu'on crée des crises alimentaires, des hausses de produits de première nécessité dans des pays parce qu'on spécule dans sur les places boursières internationales. Donc c'est dans ce monde-là qu'on vit. Mais d'un autre côté, c'est aussi le monde où nos jeunes peuvent décider d'aller faire un service civique à l'autre bout du monde, où nos jeunes peuvent décider, une fois qu'ils sont qualifiés ou avant même d'être qualifiés et diplômés, d'aller ailleurs avoir une expérience, où la génération des jeunes aujourd'hui sait qu'elle va avoir plusieurs vies, c'est-à-dire qu'elle va exercer plusieurs métiers, qu'elle va apprendre à faire des choses extrêmement différentes. Donc c'est dans ce monde-là que nous vivons, et ce monde est de plus en plus à notre portée, les informations vont de plus en plus vite, et nous savons qu'il est fragile, nous savons que physiquement il est fragile, et nous savons que sa fragilité tient de nos égoïsmes répétés sur plusieurs générations. Donc le monde est là avec des opportunités, avec des perspectives absolument inouïes et terriblement excitantes, mais avec aussi une violence qui n'est plus à la portée des États, en tout cas qui n'est plus à la portée des États d'éteindre. Et donc c'est la question de comment nous mettons des institutions efficaces en face de ce monde-là.
Pour l'urgence climatique, c'est la toute dernière partie de votre livre. Vous décrivez tout ce qui est en train de s'effondrer autour de nous. Mais vous n'avez pas de... Est-ce que vous avez un mode d'emploi ?
Non. Et d'ailleurs, le dernier chapitre, il tient en deux mots. Je dis oui. et après, avec trois points de suspension. Parce que nous savons tout. Alors, le mode d'emploi, c'est cesser de tricher, déjà. Cesser de tricher.
Qui triche ?
Mais tout le monde triche. Cesser de croire qu'on gagne du temps alors qu'on en perd et qu'on n'en aura plus du tout. Cesser de croire qu'on peut louvoyer, vraiment. Cesser toutes ces pratiques dilatoires. Cesser changer le calendrier, changer le tempo. Voilà, la temporalité aujourd'hui, c'est l'échéance électorale. Il y en a une tous les deux ans. Donc le tempo de l'action politique, c'est dans la lunette, comment je m'en sors dans deux ans. Alors que la temporalité climatique, c'est comment nous évitons l'engloutissement pour les prochaines générations. Donc voilà, il faut arrêter de tricher. Nous savons tout. Nous savons tout. Qu'est-ce que nous faisons? Et ça ramène à ce que je disais. Quelles institutions transnationales, multilatérales, nous mettons en capacité de faire ça? Alors, nous avons l'ONU, et je crois profondément au multilatéralisme. Et je crois qu'il faut que l'ONU soit la réponse à cela. Mais pas l'ONU telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Il faut une réforme de fond, de façon à ce que l'Organisation des Nations Unies, en tout cas lorsqu'elle est en capacité de réfléchir et de décider par une résolution ou par un autre acte administratif, que cela s'applique.
Et l'ONU, que peut-elle faire face aux États-Unis, qui sont pas le plus gros pollueur de la planète, si, qui sont le plus gros pollueur par tête d'habitant, face à un pouvoir égoïste et sourd justement à cette urgence climatique.
Si l'Organisation des Nations Unies était vraiment, dans les faits, une structure, une institution multilatérale comme elle doit l'être, elle serait en capacité d'absorber, d'amortir l'excentricité au sens à la fois physique et psychologique des États-Unis actuellement. Physique dans la mesure où les États-Unis se mettent hors de ce regroupement du monde, et psychologique dans la mesure où il y a une politique officielle de déni systématique. Mais les Nations Unies ne sont pas en capacité d'absorber ça, alors que la contradiction, c'est qu'elles sont installées sur le territoire de ce pays-là, que c'est dans ce temple du multilatéralisme que M. Trump vient faire la promotion des égoïsmes nationaux, mais l'institution est dans une totale incapacité à répondre. Moi, je dirais, parce qu'il faut parfois des idées simples, mais c'est une idée de grande impuissance, hélas. Je pense qu'il nous manque 5-6 grandes personnalités politiques. Il y en a eu 3-4 à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et ça a transformé profondément le monde. Il nous manque 5-6 grandes personnalités politiques pour transformer profondément notre actuel mode de vie.
Merci Christiane Taubira. Vos nuits, des nuits de Guyane, nuits de l'Assemblée nationale, vous les racontez dans Nuit d'épines chez Plomb. Dans un instant, on va vous faire découvrir le nouvel album du grand pianiste de jazz Baptiste Trottignon, avec quelques voix, quelques chansons. Vous avez aussi écrit des chansons, Christiane Taubira, pour Chris Combette. Ça pourrait revenir.
J'ai écrit des textes, j'en écris toujours. Il y a des artistes qui m'en demandent. Donc j'en ai offert à 3 artistes différents récemment, et je crois qu'il y a des choses qui vont sortir. Ah. Je n'écris pas de chansons, j'écris des textes pour me laver la tête la nuit.
Et on les met en musique.
Et des artistes m'ont proposé de les mettre en musique.
Merci à vous.
Merci.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Voici à présent un grand pianiste de jazz qui, en ouverture de son nouvel album, s'attaque à un monument. I'm a fool to want you, je suis fou de te vouloir, parole de Frank Sinatra, fou d'amour pour Ava Gardner, chanson immortalisée par Billie Holiday. Oui, il fallait être fou, mais la voix qui accompagne le piano de Baptiste Trottignon nous donne la chair de poule.
I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you, to seek a kiss not mine alone, to share a kiss the devil has known.
Bonjour Baptiste Trottignon.
Bonjour Patrick.
Cette voix, c'est celle de Camélia Jordana, sur un mode dépouillé, écorché. Comment avez-vous travaillé avec elle ?
Très simplement. Ce qui est très amusant, c'est qu'elle elle le dit elle-même, elle n'a pas de culture jazz, mais par contre, elle a un truc très instinctif pour jouer ce type de jazz, très inspiré effectivement de Billie Holiday. Elle est vraiment à fleur de peau, hyper intuitive, et ça s'est passé vraiment comme à l'ancienne, on va dire. On a fait 3-4 prises, on a gardé la troisième, je crois, puis voilà, quoi, ou la deuxième, je ne sais plus.
Et elle a compris vite que c'était un chant tragique, un désespoir d'amour.
Ouais, et en même temps, comme toujours dans l'histoire du blues, il y a à la fois ce mélange de tragique, effectivement, et en même temps dans le sourire.
Ouais.
Ça, c'est typique, c'est ce qui me touche, moi, beaucoup dans la culture afro-américaine, dans le blues, quoi.
Ce n'est pas la seule voix de ce très bel album. Vous avez aussi convoqué le timbre profond de Thomas de Pourquery pour le Sugarman de Sixto Rodriguez.
Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal.
Thomas de Pourquery, saxophoniste et chanteur que vous saluez ainsi dans les remerciements. Such a fucking great voice man. Traduction, Baptiste Trottignon.
Such a fucking great voice man. La traduction, quelle putain de voix tu as, quoi, enfoiré, quoi. Bah écoutez, vous me demandez, je réponds. Hein.
C'est vous qui chantez à travers lui.
Oh bah j'ai pas ce talent-là, hein, voilà. Je chantonne comme n'importe quel instrumentiste, évidemment, mais j'ai pas ce talent vocal, on va dire, de présence vocale.
Ouais, mais c'est pas la première fois que vous donnez de la voix dans vos albums grâce à des grands interprètes. Il y a eu Jeanne Haddad, Mélodie Gardot, Miossec. Qu'est-ce que vous cherchez dans ces voix?
Après, j'ai pas forcément une culture de la chanson, on va dire, très profonde, moins que la musique classique, que le jazz, que la musique afro. Mais par contre, j'ai toujours eu cette obsession, et je pense que ça, parfois ça s'entend quand même, de jouer du piano vocal. Que ce que je fais au piano en tant que pianiste, hier, il y a une couleur vocale. Donc la voix est vraiment une source d'inspiration dans mon travail d'instrumentiste. Donc il y a un lien quand même. Ouais.
Et vous vous mettez, on l'entend, au service de la voix. Vous avez pratiqué à vos débuts l'exercice en solo sur certains de vos premiers albums. Vous y revenez avec une série de titres sur ce nouvel album. Une mélodie des Beatles. Et aussi des compositions personnelles, dont une très virtuose. C'est de vous, ça, Baptiste Trodignon, et c'est improvisé.
Oui, c'est la première fois que je fais ça sur un album, il y a 3-4 plages exactement, mais qui sont des petites improvisations. On avait pas mal de temps dans le studio pour les parties solo, plus que d'habitude, et c'était une forme de luxe en termes de process d'enregistrement, de production, etc. Et je me suis dit, bon, je vais juste faire quelques trucs comme ça. Alors, ce petit motif-là de main gauche, c'est un truc que j'avais déjà fait, moi, en concert, et qui m'était inspiré par une petite chose de Gheorghe Ligeti, pour ceux qui connaissent. Mais effectivement, il y a d'autres passages aussi où j'ai improvisé des choses comme ça, des accords, comme on fait en concert, mais qu'on n'ose pas souvent le faire sur disque. Et là, j'avais envie d'essayer, je suis très content d'avoir essayé.
Il y a aussi, toujours en piano solo, une reprise de Bach. La sarabande de la partita en ut mineur de Bach, revisitée par Baptiste Trotignon, avec une sonorité un peu pincée comme pour un clavecin.
Tout à fait, ouais. Piano forte, ouais. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est le technicien piano qui était là à ce moment-là, ce qu'on appelle l'accordeur, mais qui n'est pas que accordeur, qui peaufine vraiment les marteaux, les feutres, etc., qui est un mec super, qui a mis une bande en fait, de feutres sur toutes les cordes.
Ah, c'est comme ça.
Ce qui fait un son assez étrange. Il y a deux titres qui sont avec ce son-là. Ouais.
Effectivement. Ah, je rappelle que vous avez une formation classique, vous êtes passé par le Conservatoire de Nantes. Qu'est-ce qui vous a conduit au jazz?
De l'amour, en fait, quoi. C'est-à-dire une excitation, une vibration pour laquelle je suis tombé amoureux, adolescent, du son black américain de façon générale. Le jazz est peut-être une des formes les plus sophistiquées, mais après, toutes les musiques qui ont cette vibration-là, le blues, l'excitation du groove qu'on a dans le funk, dans la soul, etc., c'est pas ce que je pratique, mais il y a des racines communes. Je ne suis pas noir américain, mais j'aime ça, quoi. Ouais. Et je suis suffisamment... gourmet pour avoir envie de goûter différentes vibrations. Quoi.
Et donc aussi deux types d'exercices dans cet album, des solos qu'on vient d'entendre et des duos, soit avec des voix, soit avec de très grands instrumentistes comme par exemple ce titre avec le bugle d'Ibrahim Malouf. Ou encore la trompette d'Avishai Cohen. You've Changed, qui donne son titre à l'album. Album magnifique, Baptiste Trotignon, pour lequel vous avez cultivé... la simplicité, le dénuement.
Ce sont des beaux compliments, ça me plaît bien, ça.
Oui, c'était le but à atteindre.
Alors là, c'est un petit peu long, je vais essayer d'être concis, mais c'est vrai que ça a été construit sur une période inhabituellement longue, parce que ma vie personnelle était très compliquée à ce moment-là. Donc, c'est la première fois que j'ai enregistré un album en quasiment 2 ans. Ça ne se fait pas normalement, un disque de jazz, ça se fait en 2 jours ou 3 jours. Et du coup, j'ai fait beaucoup de tri. Après, il y a eu beaucoup de choses enregistrées. Et j'avais envie effectivement de quelque chose de très peaceful, de très apaisé en fait. Et j'ai viré beaucoup de plages pour garder vraiment une espèce d'essentiel, je trouve, au final, qui, à ma grande surprise, moi-même, était assez cohérent, je trouve. Mais je trouvais ça chouette, après beaucoup d'albums autour de la percussion, effectivement, qu'il y ait une vibration assez Ouais, assez peaceful, je me répète, mais...
Le 17 novembre, dimanche prochain, vous serez sur la scène des Bouffes du Nord dans le cadre du festival Pianomania pour une journée que vous avez programmée. Vous, on vous entendra en solo, en duo, en trio ?
Oui, moi je vais jouer en fin de soirée. J'étais un peu promu, c'est un grand mot, mais directeur artistique de cette journée pour la programmation. Tout ça, il y a 14 pianistes effectivement qui vont.
Marathon de piano jazz de 11h à 23h.
Exactement. Et moi je jouerai le soir après Philippe Cassard. Et donc je ferai un concert un petit peu plus conséquent en termes de timing. Et effectivement, il y aura 2-3 invités surprises que je n'ai pas le droit de nommer.
Bon, donc
il y en aura un de l'album, mais je n'ai pas le droit de dire lequel.
Donc ce ne sera pas forcément en solo. Pianomania, ça démarre le 14 novembre avec Herbie Hancock à la salle Pleyel, c'est complet évidemment, et ça se termine le 18 avec Kenny Barron à la scène musicale. Merci beaucoup Baptiste Trottignon.
Merci.
Nouvel album You've Changed. On se quitte avec un peu de Camélia.
Avec plaisir.
I'm a fool to warn you. I'm a fool to warn you. To want a love that can't be true.
Et on a envie de rester là-dessus, mais l'horloge tourne. Marina Prusa, Julien Cottreau, Guillaume Vasseau et Julien Blanc m'ont aidé à préparer et à réaliser cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, 9h10.